French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode a reçu le soutien d'Agora Expat. Vivre aux États-Unis nécessite une assurance santé adaptée. Mais trouver la solution parmi toutes les offres peut s'avérer être un vrai casse-tête. Budget, besoins, franchise, difficile de tout combiner. Ne perdez plus votre temps, Agora Expat sélectionne et compare pour vous les meilleures solutions d'assurance santé. Offres personnalisées, accompagnement sur mesure, devis et conseils gratuits, Agora Expat est le courtier référent de la communauté francophone expatriée aux États-Unis. Retrouvez plus d'informations sur agoraexpat.com. Et maintenant, place à l'épisode.
Ce qu'il faut savoir, c'est que l'île d'Hainan n'est pas très grande, c'est aussi grand que la Belgique. Donc nous, on vivait au nord, à la capitale qui s'appelle Haikou. Au début, je suis arrivée donc avec un visa d'épouse, puis travailler sur un spectacle de cascade, alors encore moins, surtout que moi, à la base, je suis assistante sociale, j'ai fait ce métier pendant 8 ans. Avis aux gens qui vont chier, c'est épicé, goûter avant de donner à vos enfants. Enfin, que par geste, et pour le coup, on se comprenait très bien toutes les deux en geste, en gestuelle. On s'est retrouvés sur des plages de surf, alors c'est complètement improbable, je trouve, que de voir des Chinois surfer, sachant qu'ils n'aiment pas du tout le soleil.
Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats francophones des quatre coins du monde. Notre but, c'est de raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. On vous propose ainsi chaque semaine, tous les lundis, un nouvel épisode pendant lequel nous discutons avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou qu'ils ont vécu. Moi, c'est Charlotte et je vous parle depuis Brooklyn, New York.
Nous partons cette semaine à la rencontre d'Elodie et sa famille. Elodie revient d'une expatriation de 13 mois en Chine. Ayant déjà vécu un an à New York plus jeune, Elodie souhaitait revivre cette expérience en famille. Mais son mari n'était pas encore prêt. Une opportunité professionnelle s'offre alors à lui. Et là, plus question de refuser, c'est parti, il tente l'aventure. Les voilà partis pour l'île d'Hainan, en Chine. Cette île est surnommée le Haiwai chinois. Et je vous laisse découvrir pourquoi. C'est finalement conquise et avec des envies de repartir qu'ils sont rentrés en France il y a quelques mois. Elodie revient sur leur expatriation, les différences culturelles, langagières et alimentaires auxquelles ils ont été confrontés, mais aussi à la richesse des liens qu'ils ont tissés avec les locaux, la beauté des villes chinoises et des endroits qu'ils ont visités. Un épisode touchant que je suis heureuse de vous partager. Je vous souhaite à tous une belle écoute. Bonjour Elodie, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de French Expat, le podcast.
Bonjour Charlotte, merci de m'accueillir.
C'est un plaisir d'avoir avec nous pour cet épisode. Alors Elodie, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et d'où tu nous parles aujourd'hui?
D'accord, alors aujourd'hui je vous parle de France parce que je reviens de 13 mois d'expatriation. Nous avons vécu sur l'île d'Hainan, une île chinoise.
D'accord.
Je m'appelle Elodie, voilà, je...
Et voilà.
Pas commencé par le début, mais voilà.
Mais c'est donc, pas grave, c'est parfait.
Donc voilà, nous venons de cette année. Donc là, il fait un petit peu froid, mais nous avons passé donc 13 mois pour moi et ma fille et 15 mois pour mon mari sur cette île qui est entre le Vietnam et les Philippines, qui est au sud d'Hong Kong. Donc c'est une île du gouvernement chinois qui est
D'accord.
pas très connue même, parce que moi je la connaissais pas avant d'y aller, pour être honnête.
Est-ce que tu peux nous redire le nom?
Alors, l'île s'appelle Hainan.
Hainan, d'accord.
Voilà.
Et il me semble, quand tu avais répondu à notre questionnaire, que tu nous avais dit que c'était considéré comme le Hawaï chinois, le paradis chinois.
Oui, c'est tout à fait. Alors, c'est les Chinois qui l'appellent le Hawaï chinois.
D'accord.
C'est une très jolie île. Il fait été toute l'année, donc en plein mois de janvier, il y a 25 degrés. Par contre, en juillet-août, il fait beaucoup plus chaud, bien sûr.
D'accord.
Mais c'est une île tropicale avec des très jolies plages et qui est vraiment réputée pour les vacances pour les Chinois. Ils vont tous là-bas pendant leur break, que ça soit le Chinese New Year ou les autres vacances. Et
c'est leur station balnéaire, c'est ça, ouais.
Oui, tout à fait. Alors c'est très chinois, mais il y a aussi beaucoup de tourisme russe. Bon, ça, on pourra en revenir plus tard.
D'accord.
Mais voilà, c'est vraiment leur île à eux. Et en effet, il n'y a pas beaucoup de touristes à part les Russes et les Chinois.
D'accord. Alors, on va revenir. Donc là, vous êtes revenu de votre expatriation, ce qui est super, on va pouvoir en discuter. Ça fait donc 3 semaines que vous êtes revenu. Mais si on revient 15 mois en arrière, pour ton mari, donc 13 pour toi et ta fille, qu'est-ce qui vous a emmené à vous expatrier en Chine? C'est pas forcément une destination à laquelle on s'attend comme ça au départ.
Non, alors c'est vraiment une occasion qu'on a eue. Pour être honnête, la Chine, ça a jamais fait partie des pays, où on avait envie d'y vivre, et même y aller en voyage, ça faisait pas partie du top 10.
D'accord.
Voilà. Donc, mon mari a un métier un peu particulier. Il est cascadeur, voiture et moto.
Waouh.
Voilà. Et du coup, il travaille à Disney sur le spectacle le Stone Show, donc le spectacle de voiture et moto. Uh-huh. On a fait ça pendant 7 ans, et voilà, et on arrivait un petit peu au bout de cette expérience. Et un beau matin, il vient me voir en me disant qu'il a une occasion pour un nouveau spectacle qui ouvre Chine, sur cette île, et voilà, il voudrait savoir ce que j'en pense. Donc voilà, on a regardé sur Google à quoi ressemblait l'île d'Hainan, parce que déjà on savait même pas où se situait. Pour être honnête, je ne savais même pas que la Chine avait une île tropicale.
Ah oui, non, je ne savais pas du tout.
Non, mais même tout notre entourage a été très surpris de cette île. Donc on a regardé, les photos est très sympa, parce que c'est vrai que la Chine, c'est assez effrayant. Moi, tout ce qui était pollution, ça m'attirait pas du tout. Surtout qu'on a un petit bout, donc on fait très attention. Tout ce qui est un petit peu trop de monde. Enfin voilà, moi j'ai toujours vu un peu cette Chine remplie de monde, noire de monde, un peu étouffante même.
Mmh. Ouais, très pollué. Enfin, c'est vrai qu'on a un peu l'image de soit noir de monde, comme tu dis, soit très pollué.
Ouais, tout à fait. Et du coup, cette île était vraiment à l'opposé. Au niveau de la qualité de l'air, on était beaucoup mieux que où nous vivions en Île-de-France.
Ah oui.
Donc, voilà, elle est désertique. Surtout dans la ville où on était, parce que bon, je pourrais y revenir, mais du nord au sud, c'est pas du tout la même chose. Et donc, on s'est dit, bah, on va essayer. En tout cas, déjà postule, et ensuite on verra, parce que tu peux aussi être refusé. Il a postulé, il a été pris. Ça s'est passé en avril.
Ça a été rapide. Entre le moment où il a postulé, le moment où on lui a dit, bah, c'est bon, vous partez.
Alors du coup, il a postulé en avril et ils lui ont dit, bah voilà, tu pars en octobre.
Ah ouais.
Donc du coup,
6 mois après.
Voilà, on s'est dit, ah ouais, d'accord. Alors là-bas, c'était en août. Après, ça a été décalé en septembre. Et finalement, il est parti en octobre parce qu'il y avait des retards de travaux pour le spectacle.
D'accord.
Donc, du coup, ça a été un petit peu la course. Au début, on l'a dit à personne. On l'a annoncé à la famille que courant juillet, je crois. Je pense qu'on voulait garder ça pour nous quelques temps. On voulait garder ces petits secrets.
Mm-hmm.
Et finalement, on a commencé à l'annoncer petit à petit à la famille.
La famille l'a bien pris de savoir vous partiez en Chine.
Oui, l'a bien pris parce que voilà, ils nous connaissent. Moi, j'avais déjà vécu 1 an à l'étranger durant l'année 2013. J'avais vécu 1 an à New York et je m'étais jamais cachée sur le fait que j'avais envie de retourner vivre à l'étranger. Mm-hmm. Mon chéri était pas du tout encore prêt à cette idée quand je suis rentrée de New York. J'avais vraiment vraiment envie de repartir et lui, il avait pas du tout envie.
Donc, c'était pas du tout dans ses projets, il se voyait pas quitter la France au départ.
Non, parce qu'il est vraiment passionné par son travail, il aime la famille de Disney, il aime son spectacle et il voulait pas du tout quitter ça. Donc j'étais très surprise quand il m'a parlé de ce spectacle et surtout en Chine parce qu'on n'avait jamais parlé de Chine, ne serait-ce qu'en voyage. Donc du coup j'étais vachement surprise et je me suis dit, bah, faut sauter sur l'occasion, au moins tu verras ce que c'est qu'une expatriation et peut-être
c'est
que...
C'est ça. Voilà, ça peut plaire et donner envie d'autre chose après.
Tout à fait, tout à fait. Et alors après, ce qui était très agréable, c'est que l'entreprise pour laquelle il a été embauché s'est occupée de tout. Ils se sont occupés donc du visa, de tous les papiers. Il a juste eu besoin de se rendre à l'ambassade de Chine. Il est parti avec un visa de travail. Et du coup, ils se sont occupés de tout ce qui est logement. Donc, on a vécu pendant un an dans un appartement hôtel qui a été choisi par l'entreprise. Donc, en fait, nous, on a vraiment rien eu à faire. Ils ont pris le billet d'avion. Ils se sont occupés du visa de mon mari. Lui, il a juste eu besoin de venir avec ses deux valises et d'arriver à l'appartement qui était meublé. Donc voilà. De ce côté-là, c'était très simple.
Voilà, c'est ça. C'était très très confortable de savoir où vous alliez arriver, de pas avoir de pression de trouver un appartement et tout était sur les rails en fait.
Tout à fait. Vraiment, c'était du tout inclus. Donc, alors après, moi, j'ai dû faire mon visa avec celui-là de ma fille. Et d'ailleurs, ça, c'était un long sujet de conversation parce que nous n'étions pas mariés, donc. Je n'avais pas le droit d'avoir un visa de travail. Je pouvais au mieux avoir un visa touristique de 3 mois, ressortir du territoire, revenir, sachant que au bout d'un moment, je pense qu'ils auraient peut-être bloqué en disant
Madame, ça fait trop.
Suffit, quoi. Ouais, ouais, tout à fait.
Surtout que les. Et donc du vraiment, coup, vous avez dû vous marier pour que tu puisses partir avec sous le visa de ton mari, du coup.
Alors du coup, on a toujours voulu se marier. Ça fait des années qu'on est ensemble, mais on avait envie de faire quelque chose de bien. Donc on disait non, on se mariera pas, on va trouver autre chose. Donc on cherchait. Et puis en fait, 3 semaines avant son départ, on n'avait toujours rien trouvé. Donc à un moment, on s'est dit on va se marier parce que
c'est le choix.
Plus simple. Bah ouais, y a pas le choix, c'est le plus simple. Alors c'est pas très romantique, mais on va le faire quoi. Donc on s'est vu à organiser un mariage en 2 semaines et demie.
Ah oui.
voilà, ça a été un petit peu. Au début, on s'est dit, on va juste à la mairie et puis ça reste entre nous. On dit à la famille, les parents vont être là, les grands-parents. Après, ça prend une ampleur et ça finit un mariage à 75 personnes dans la robe de mariée, avec l'alliance, avec la cérémonie. Enfin voilà. Donc on a fait la totale en 3 semaines,
c'est
en
génial.
2 semaines et demie. Oui.
Ça met du baume au cœur avant de partir. C'est des beaux souvenirs.
Oui. Bah du coup, c'était un mariage très particulier, un petit peu difficile parce que c'était mon chéri partait la semaine d'après, donc c'était aussi les au revoir pour tout le monde. Mm-hmm. Donc c'était aussi très 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 fort et intense. Donc voilà.
Donc là, vous êtes parti en septembre 2018.
Non, alors mon mari est parti début octobre 2018.
D'accord.
Voilà.
Vous êtes revenu là janvier 2020. D'accord. Ouais. Et c'était prévu que vous revenir aussi vite, Non, il y a pas de c'est pas une question de temps, mais voilà, c'était un contrat défini de tant de mois où vous rentrez
contrat, en effet, il était de octobre 2018 à janvier 2020, il était reconductible si on le souhaitait.
Oui.
Alors après, on n'a pas souhaité le reconduire. Alors en fait, c'est tout bêtement personnel hein, parce qu'on s'y plaisait sur l'île. Mais on a une petite fille qui a 2 ans et demi. On a très envie d'avoir un deuxième enfant. Et j'avais envie de le faire en France parce que j'avais envie d'être avec des gens qui parlent français.
Bien sûr, d'être entourée.
Voilà.
Famille, amis.
Voilà, j'avais besoin d'être dans mon cocon un peu français. Alors la médecine en Chine, elle est très bien. Ils font des hôpitaux géniaux, surtout pour les enfants. Ils font vraiment des trucs très très bien. C'était vraiment plus j'avais besoin d'être dans mon cocon.
Oui, un choix personnel. Il y a aucun souci avec ça. Bien sûr, c'est même très bien d'en avoir conscience. Mais du coup, voilà, vous pouviez rester plus longtemps si vous le souhaitiez à la base.
Oui, on pouvait rester une année de plus. Alors je pense qu'après c'était d'année en année.
D'accord.
C'est que des contrats d'un an après, mais on pouvait rester une année de plus, tout à fait, oui.
Ok. Et alors, qu'est-ce qui vous a le plus peut-être marqué, ou que ça soit l'un ou l'autre, pendant cette expatriation? Parce que c'est vraiment, j'imagine qu'il y a de grosses différences avec la France, culturelle, mais aussi au niveau de l'alimentation, de sociétal. Peut-être que c'est vraiment différent.
Alors, j'ai vraiment eu un gros choc de culture forcément j'en avais eu un quand j'étais allée aux États-Unis, mais je m'étais quand même sentie un peu je me sentais quand même à l'aise, j'avais l'impression de connaître parce qu'avec les films on connaît forcément. Chine, sachant que je me suis jamais intéressée au pays, je suis vraiment en plus je suis arrivée, moi j'ai déjà fait une expatriation, je m'y connais un petit peu sûre de moi, et en fait je suis arrivée, faut savoir que sur l'île les gens ils parlent pas du tout anglais. Le seul mot anglais qu'ils vont dire, c'est bye bye. Et vraiment, même si on leur dit hello, ils comprennent pas. Donc déjà, on se heurte à cette barrière de la langue.
Ah oui, qui est vraiment forte, là. Ouais.
Qui est extrêmement forte, au-delà de quand on va aux États-Unis, on peut quand même baragouiner, on peut lire ce qui a marqué sur les panneaux, on peut quand même un peu se faire comprendre, même le langage corporel en Chine est différent. Voilà, c'est-à-dire que même dire des chiffres sur le doigt de la main, ça se dit pas de la même manière. Donc, vous vous retrouvez à vouloir dire un, vous montrez votre pouce, ils vont pas comprendre, eux, ils montrent leur index. Enfin voilà, le chiffre 6, c'est pas les 5 doigts de la première main et le pouce de l'autre main, c'est vous prenez votre main, vous serrez le poing, vous soulevez le pouce et le petit doigt, et ça, ça fait le chiffre 6.
Je suis pas décidée. Je suis en train de le faire, je suis en train de le faire en même temps. D'accord, ça fait le 6. Ok.
Et donc, même le langage corporel est pas le même, donc même ça, on se comprend pas. Donc c'est vrai qu'au début, c'était un très gros choc, parce que j'ai mis peut-être 2 semaines à retenir comment on disait au revoir en chinois, parce que la sonorité est complètement différente. Et puis, les Chinois sont très curieux et ils aiment beaucoup les étrangers.
D'accord.
Et en fait, dès qu'ils nous voient, ils viennent nous voir et ils nous parlent, ils nous parlent.
Et alors, même si tu comprends pas, ils parlent. C'est pas.
Alors, voilà. Je réponds en français. Je pense qu'ils voient que je parle pas chinois. Puis ils continuent. Alors j'ai très vite appris à comment on disait je ne comprends pas en chinois. Donc tibodang. Je disais tibodang. Et non, ils continuent parce que c'est vraiment des gens très curieux. Ils ont envie de savoir d'où on vient, pourquoi on est là.
Est-ce que t'es là en tant que touriste ou si tu viens y vivre, ils sont très intéressés.
Ils sont très très intéressés, mais c'est vrai que moi mon premier choc c'était vraiment la barrière de la langue, et puis le langage corporel, et puis même pas reconnaître ce qui a marqué sur un tableau. Enfin, imaginez, vous allez à un restaurant, vous donnez une carte chinoise, il y a même pas une photo. C'est compliqué. Donc moi, le premier restaurant que j'ai fait, je me suis retrouvée avec, j'avais une assiette de pâtes de poulet, et l'autre côté, j'avais une assiette avec, j'avais l'impression que c'était des petits haricots verts et de la viande, et en fait c'était pas des haricots verts, c'était que des piments, et c'était pas de la viande, c'était du je crois du tofu, quelque chose comme ça, et je me suis dit mais il y a rien que j'aime dans ces deux plats.
Enfin, voilà. C'est drôle que tu parles de ça, c'est nous quand on est arrivé à New York il y a un peu plus d'un an maintenant, un des premiers repas qu'on a pris, on était dans le quartier chinois de Chinatown, et on a commandé un plat à emporter, on s'est dit on va manger à l'appart hôtel où on était au début. Et pareil, pas de photos, pas de traduction en anglais et que des photos. Et c'était une photo qui était pas très bien prise, mais ça avait l'air appétissant. Donc on a pris ça, puis rentré à l'appart hôtel pour manger le soir, on se rend compte que c'était des pâtes de poulet. Donc on a testé pour se dire, on teste. Hein. C'était, mais oh là là, c'est dur. Alors je pense qu'il y a peut-être des personnes qui aiment ça et tant mieux. Mais c'est vrai que sur le moment, on s'est dit mince, on a rien qu'est-ce qu'on va faire là ? On a rien à manger.
C'est ça. Alors j'ai quand même goûté pour pas me dire je me braque. Ah, j'aime pas ça.
Non, c'est pas fameux.
Mais les Chinois aiment beaucoup ça. Hein. Ils en mangent beaucoup, beaucoup.
Ah ouais. C'est un plat typique, enfin qui est vraiment mangé régulièrement.
Ils en mangent régulièrement, comme beaucoup de nouilles ou des soupes un petit peu, voilà, où ils mettent beaucoup de choses, beaucoup d'os dans les soupes, voilà. Pour donner du goût, enfin voilà, mais en tout cas oui, c'est un plat très courant que je voyais tout le temps à la cantine du travail, donc voilà.
D'accord. Donc déjà premier choc, la langue, et ensuite l'alimentation qui est vraiment pas la même.
Pas la même. Et puis il faut savoir c'est que les Chinois mangent, en tout cas sur l'île, parce que vraiment la Chine c'est très très grand, et en fonction des régions c'est un peu comme en France, il n'y a pas les mêmes spécialités. Et sur l'île en tout cas la spécialité c'était le poulet. Qui est assez réputé apparemment, tout ce qui est fruits de mer, parce que forcément on est au bord de mer, et ils aiment manger aussi beaucoup épicé. Alors ça, je crois que c'est quand même très particulier à la Chine, et c'est vrai que au début j'avais pas forcément, en tout cas les premiers jours, la réflexion de goûter ce que je donnais à ma fille quand on allait au restaurant. Et une fois j'ai donné du coup du riz à ma fille, il y avait un petit peu de sauce. Et faut savoir qu'elle avait 16 mois à l'époque. Et là, je vois, avec ses mains, elle crache tout le riz. Elle dit, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et je goûte, c'était épicé. Et je me dis, oh mon Dieu, ma pauvre Loulou, je suis désolée. Ah, je m'en suis voulu. Alors du coup, maintenant, je testais tout, même les gâteaux. Dès que je faisais quelque chose, je testais. Mais c'est vrai qu'en fait, j'avais pas ce réflexe-là, surtout que j'avais montré à la serveuse, c'est pour mon bébé. Elle m'a dit oui, oui, vas-y, tu peux, tu peux. Donc voilà. Donc avis aux gens qui vont en Chine, c'est épicé, goûtez avant de donner à vos enfants, parce que là j'ai fait vraiment la mère indigne. Mais
ils mettent des épices partout, mais épices pas juste de du curry, c'est vraiment piquant en fait.
Ouais, beaucoup de piment. Ils aiment beaucoup ça.
D'accord.
Et ouais. Surtout, ils aiment beaucoup manger ce qui est tout, ce qui est hot pot, ce qu'ils appellent comme ça. Donc en fait, c'est un grand bouillon chaud où on trempe ces aliments dedans, bah un peu comme on fait le bœuf bourguignon, je crois. Comment ça s'appelle quand on fait tremper sa viande dans l'huile?
Ah oui,
je sais plus.
La fondue bourguignonne.
La fondue bourguignonne, voilà. Et ils aiment beaucoup manger comme ça. Et c'est vrai qu'il faut faire très attention parce que souvent c'est très 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 épicé.
Le bouillon est relevé, c'est ça?
Ouais.
D'accord. Vraiment. Donc du coup, donc deuxième choc culturel, la nourriture. Est-ce que pour le premier, pour la langue, tu as pris des cours? Comment t'as réussi par la suite à communiquer? Puisque ton mari travaillait, toi au départ tu ne travaillais pas, c'est ça, hein?
Non, au début
tu es partie avec un visa sans pouvoir travailler.
Au début je suis arrivée donc avec un visa d'épouse, mais j'avais l'autorisation de travailler du coup, comme mon mari travaillait. J'avais quand même cette possibilité là. Et donc au début je suis arrivée, en fait j'ai tout de suite eu mes parents et mes beaux-parents qui sont arrivés. Donc en fait pendant un mois complet j'étais avec eux, donc en fait j'ai visité la ville dans laquelle j'ai vécu pendant le mois. On a fait vraiment que de la visite. Ensuite, je me suis inscrite à des cours pour apprendre le mandarin, justement. J'ai pris que 15 jours de cours parce que, justement, après, je me suis fait embaucher par la compagnie de mon mari.
D'accord.
Donc, du coup, j'ai pu prendre que 15 jours de cours. Et pour le coup, j'ai pas appris grand-chose parce que c'est tellement dur, complexe. Faut savoir, c'est que dans le mandarin, il y a 4 tons différents en fonction de l'accent. Donc rien que prendre le coup, que ça soit dans la prononciation ou dans l'écoute, pour nous c'est vraiment, enfin voilà, ça c'est pas naturel.
Hyper dur.
C'est hyper dur.
Quand tu dis qu'il y a 4 intonations, ça veut dire qu'en fonction de la personne avec qui on va parler ou du contexte, faut changer?
Non, en fonction du mot, il va y avoir un accent, donc il va y avoir un accent circonflexe, un accent grave, et en fait, c'est comme ça qu'on... Alors, par exemple, si l'accent va vers le haut, faut qu'on monte la tonation, donc ça fait « ché ». S'il va vers le bas, c'est « ché ». Et pour nous, c'est vrai qu'à l'écoute comme ça, ça va pas paraître hyper... Ah là, il a dit ça.
Il y a pas de grosse différence, ouais.
Voilà. Mmh. Pourtant, ça peut dire complètement deux mots différents.
Ouais, d'accord.
Donc voilà, moi j'ai pas appris grand-chose en 15 jours malheureusement. Après, j'étais aussi très contente de commencer à travailler. Et puis c'était une première de travailler avec mon mari. Mais oui. Et puis travailler sur un spectacle de cascade, alors encore moins, surtout que moi à la base je suis assistante sociale, j'ai fait ce métier pendant 8 ans et donc là on me met sur un spectacle de cascade, autant dire que c'était le jour et la nuit pour moi.
Tu faisais les cascades aussi?
Non, alors pas du tout. pas du tout sportive pour un sou. Mais alors moi pour le coup, ils m'ont embauchée en tant que stage manager. Donc on était 3 à avoir ce statut tout à fait. Et ce métier consiste à manager tous les comédiens en scène, donc les cascadeurs, il y avait aussi des acteurs, veiller à ce qu'ils respectent leurs horaires pour les entraînements, pour le warm-up, c'est aussi gérer les conflits, parce que du coup, nous, on est beaucoup avec les cascadeurs, s'il y a quelque chose, il faut le faire remonter à la direction.
D'accord.
Et puis le moment le plus important, c'était pendant le spectacle, je donnais l'autorisation aux comédiens de rentrer sur scène, et s'il y avait quelque chose en backstage qui n'allait pas, je gérais les pannes de voiture, un cascadeur blessé, ouais, tout à fait.
Un rôle qui était très très multiple.
Oui, et en même temps, il a été très très intéressant, et pour le coup, j'ai eu la chance d'être embauchée parce que je parlais l'anglais grâce à New York. Donc et puis c'était quand même une entreprise internationale, donc forcément on a travaillé beaucoup avec des Chinois, mais des Chinois bilingues qui parlaient anglais couramment. Il y avait aussi des Ukrainiens, Allemands, Italiens, Néo-Zélandais, Australiens, français forcément. et belge. Enfin voilà, on était vraiment une équipe très internationale. Du coup, c'était intéressant, mais c'était aussi un sacré défi parce qu'il y a déjà on a le choc culturel de la Chine, mais en plus il y a aussi toutes les différentes cultures en interne. Ce que fait un Ukrainien, nous, ça va peut-être nous paraître ça va peut-être nous paraître mal poli, puis peut-être lui va se dire bah vous français. Enfin voilà, c'était ça un petit peu constamment et c'était aussi un petit peu difficile, mais c'était très très enrichissant.
Tu marchais sur des œufs, c'est-à-dire fallait être agréable avec tout le monde, arriver à ménager tout le monde tout en les dirigeant et en faisant en sorte que le spectacle fonctionne. Donc
c'est pas tout simple. Non, c'était pas simple, mais j'ai appris beaucoup beaucoup de choses.
Tu as appris sur toi ou sur les autres? Ça t'a apporté quoi en fait cette expérience?
Alors j'ai vraiment tourné ma langue cette fois dans ma bouche avant de parler.
Ah oui.
Parce que mais c'est vrai qu'en tant que français, on a tendance un petit peu à dire ce qu'on pense assez vite, être dans la critique. Alors c'est vrai que j'avais déjà pris un peu ce recul aux États-Unis en me disant que tu peux pas tout dire parce que les Américains sont assez susceptibles. Un petit peu de ce côté-là, nous français, on va être beaucoup plus cash et c'est aussi vrai en Chine, c'est très compliqué de d'être cash avec un chinois parce que ils ont ce qu'ils appellent faut pas leur faire perdre la face.
Ah.
Donc faut surtout pas être frontal avec un chinois parce que il se braque. Donc faut vraiment
arrondir les angles.
Arrondir les angles et voilà. Donc au début, j'ai fait vraiment la même erreur que j'ai fait aux États-Unis, j'étais très cash. J'y allais un petit peu tête baissée et j'ai vraiment appris à faire attention, là t'es pas entre français, tu peux pas être brute de coffre. J'ai appris par exemple que les Ukrainiens étaient très très sérieux au travail. Ils n'aiment pas du tout rigoler pendant, par exemple, le spectacle, alors que, par exemple, les Français, entre eux, ils étaient très taquins. Eux, on voyait que ça les sortait complètement de leur concentration. Donc voilà, donc fallait vraiment dire, mais attention, là, on n'est pas entre Français. Il faut vraiment, là, on est entre collègues internationales. Faut vraiment sortir de cette culture française. Donc c'était très intéressant. Et, puis bon,
voilà. Tu regrettes pas. C'était vraiment une expérience professionnelle et aussi t'as appris sur toi et sur comment gérer d'autres personnes. Parce que je ne sais pas comment. Je ne connais pas énormément le métier d'assistante sociale, mais on est peut-être plus à gérer des dossiers et sans être un peu moins en contact d'une grosse équipe à gérer, j'imagine. Peut-être que j'ai tort,
Non, mais alors c'est vrai qu'en tant qu'assistante sociale, on est plus dans l'accompagnement, surtout on est beaucoup avec des gens qui demandent beaucoup d'attention.
Voilà, qui ont vraiment besoin d'aide.
Voilà, et là, on se retrouve quand même face à 20 gaillards, parce que c'est quand même des cascadeurs, enfin je veux dire, c'est des mecs qui ont quand même une personnalité, qui sont grande gueule, enfin voilà, c'est quand même un milieu très masculin, donc déjà, faut s'imposer. On était trois filles. Et dans l'équipe entière, ils étaient 35. Donc, à un moment, fallait taper du poing sur la table en disant, tu vas m'écouter? Ah, mais non, je vais pas t'écouter. Toi, t'es une fille. Mais alors là, tu vas redescendre. Je veux dire, il y avait aussi un petit peu ce côté, place de la femme et place de l'homme qui était un peu, différent, on va dire, en fonction des pays.
Ah, voilà, ça, c'est en fonction des pays. C'est pas que les Chinois ou,
Non, alors, pas du tout les Chinois.
D'accord.
Pas du tout les Chinois, c'était plus un petit peu voilà les Ukrainiens qui étaient un petit peu des hommes fiers, enfin voilà, mais c'était très très intéressant. Après ils étaient tous très très gentils, il y avait pas de souci de ce côté-là, attention. Mais par contre on était vraiment dans notre bulle parce qu'on travaillait beaucoup, on travaillait 6 jours sur 7.
C'est énorme effectivement.
Ouais, c'est très dense. Voilà, notre jour de repos, on était toujours tous ensemble, donc on était vraiment dans notre bulle. Et puis on était.
C'est une seconde famille.
Ah oui, totalement. Totalement. Et puis comme dans toute famille, il y a beaucoup de disputes parce que quand on est H24 avec les gens, il y a des.
Ouais.
Voilà, il y a des. On explose. Et puis on était vraiment très très couconnés. Il y avait un bus qui venait nous chercher à l'hôtel. Et le même bus revenait nous chercher, nous redéposait à l'hôtel. On vivait tous dans le même hôtel, donc voilà, on était vraiment très maternés finalement.
Et quand tu as commencé à travailler, ça faisait combien de temps que vous étiez arrivé en Chine ?
Alors moi, je suis arrivée le 21 décembre 2018 et j'ai commencé à travailler le 4 mars 2019.
D'accord. Et ensuite, qui s'est occupé de ta puce, de ta fille, qui a maintenant 2 ans et demi, c'est ça, hein?
Oui, là, elle a 2 ans et demi. Donc l'année dernière, elle avait 1 an et demi. Et bah du coup, on a trouvé une nounou chinoise. Donc on l'a appelée Aï. Donc voilà, Aï, ça veut dire dans le langage familial, ça veut dire tata, mais on peut aussi dire Aï pour une dame qui voilà qui travaille pour nos enfants, qui s'occupe de nos enfants.
D'accord.
Donc on a trouvé une nounou qui a été formidable. Ça a été un déchirement de la quitter et voilà, tous les jours au téléphone, elle est exceptionnelle. Faut savoir, c'est que les Chinois, ils sont extraordinaires avec les enfants. C'est vraiment ça quelque chose qui va beaucoup me manquer. Ils aiment beaucoup les enfants, c'est-à-dire que dans la rue, il y a énormément d'infrastructures pour les enfants, que ça soit intérieur ou extérieur. Il y a énormément de playgrounds intérieur-extérieur. Les Chinois vont vers les enfants naturellement. Moi, je passais mon temps à faire des balades et les gens s'arrêtaient constamment pour la regarder. Alors, du coup, ils lui donnaient des bonbons tout le temps. Alors, en France, on apprend aux enfants de pas accepter les bonbons des étrangers.
Oui.
En Chine, c'est juste impossible parce qu'en plus, ils se vexent. Hein. Donc à la fin je disais plus dandan, je disais chéché, allez. Et puis ma fille elle attendait qu'une chose, c'était qu'on lui donne un bonbon. Elle avait très bien compris. Mais ils étaient vraiment adorables. Et par exemple, on allait dans un restaurant, je peux vous dire que de la soirée, je n'avais pas besoin de m'occuper de ma fille. J'avais le serveur, il jouait avec elle toute la soirée. Elle repartait, elle avait un ballon, elle avait un gâteau gratuit, elle avait un cadeau. Enfin, je veux dire, à chaque fois, on partait, on a l'impression que c'était son anniversaire, quoi.
Et ils sont comme ça avec tous les enfants ou parce que petite fille européenne non, c'est vraiment, ils sont en adoration devant les enfants.
Alors, je dirais, ils le sont quand même devant tous les enfants. Mais il y avait sûrement un peu plus d'attention pour ma fille, surtout qu'elle a les yeux bleus. Enfin, voilà. Donc, elle était... voilà, elle a tiré l'œil. Faut savoir, c'est que quand je suis partie, ma fille, c'était une fille très, très sauvage. À part son père et moi-même, elle voulait s'approcher de personne. Elle souriait à personne, même pas ses grands-parents, même pas sa nourrice en France. Et d'accord. Quand on est arrivé en Chine, ils arrivaient en troupeau autour d'elle, ils voulaient faire des photos, et au début ça a été très compliqué. Elle mettait ses mains dans son visage, elle pleurait, elle disait non. Et au bout d'un mois, elle s'est pris au jeu, et elle passait son temps à faire hello dans la rue, à alpaguer les gens pour faire la photo. Elle posait en photo. Voilà, elle avait pris une petite pause de photo. Après, elle demandait le bonbon. Enfin voilà, elle avait compris.
Ah ouais, la maline.
Et ça l'a complètement ouverte. Et ça a été incroyable. Et pour le coup, je suis hyper contente qu'on soit partie en Chine. Parce que je pense qu'on serait resté en France, ça aurait pas été la même petite
chose.
Fille. Mmh. Non, c'est sûr.
Ça l'a vraiment été ouverte au monde.
Elle est vraiment, oui, tout à fait, vraiment ouverte au monde. Et elle aime vraiment le contact. Elle a le contact très facile. Et d'ailleurs, ça a vraiment facilité notre retour en France. Parce que tous les gens qu'on voit, elle les a pas vus depuis 1 an, mais elle va vers eux très facilement, elle leur fait des câlins, elle leur parle, et du coup c'était voilà, ça c'est vraiment merveilleux. Et vraiment, on a eu une nounou formidable chinoise, donc qui s'en occupait 6 jours sur 7. Et du coup, notre fille, à la fin, elle parlait beaucoup plus mandarin que français, hein, parce qu'il faut bien que ça arrive. Elle passe plus de temps avec la nounou qu'avec nous. Donc et la nounou me disait, elle parle bon. Comme une petite fille de 2 ans et demi, hein. Mm-hmm. Mais elle parle très bien le mandarin, elle le comprend. En français, elle doit dire 5 mots. Donc nous, on avait un petit peu, à un moment, on se disait mince, elle parle pas. Et là, nous, elle me dit ah, mais moi, c'est une pipelette, votre fille. Elle parle tout le temps. Bon, faut savoir que c'est que la nounou, elle ne parle que chinois, donc on parlait que par traducteur ou
d'accord.
Par collègue qui, voilà, bilingue mandarin anglais qui pouvait me faire la traduction. Et les adieux ont été très très difficiles. Elle nous a d'ailleurs, les 3 derniers jours où on était en Chine, elle nous a demandé si ma fille pouvait aller dormir chez elle pendant 3 jours. Donc je lui ai dit non, ça va pas être possible. Elle me dit s'il vous plaît, après je la verrai plus, est-ce qu'elle peut venir dormir? J'ai dit non, je préfère que ma fille dorme avec moi. Mais si vous voulez, vous pouvez aller voir votre famille, vadrouiller à droite à gauche pour le coup.
Avec elle.
Ouais. Bah alors surtout qu'elle elle a vu quasiment toute la famille. Moi, ça m'arrivait parce que les nounous chinoises, elles viennent garder les enfants à la maison. Donc ça m'arrivait parfois, la nounou, elle sonnait et en fait, il y avait son fils, son neveu, son mari, sa sœur. Donc ils rentraient tous dans la maison pour s'occuper de Jade. Donc
ah oui, elle avait une flopée de personnes rien que pour elle.
Elle avait son petit fan club et c'était très 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 mignon. Elle connaissait toute la famille. Dès qu'il y avait une fête nationale, la nounou me demandait si elle pouvait la prendre pour aller chez elle. Donc je lui dis qu'il y avait pas de souci. Donc ma fille du coup a participé à des réunions de famille chinoises pendant les fêtes. Donc elle a vraiment fait des choses extraordinaires.
On ne sait pas si elle gardera un souvenir de cette expatriation puisqu'elle est petite, mais en tout cas elle aura vécu des belles choses si jeune et vous pourrez lui en parler par la suite, de dire voilà, t'as vécu ça à tel âge, c'est superbe. Ouais. Super expérience. Ouais.
On pourra lui dire. Et puis c'est vrai, donc du coup les au revoir ont été vraiment difficiles et Aï nous a le jour de notre départ, elle nous a proposé de donc nous amener à l'aéroport. Elle a voulu absolument nous payer le repas du midi et puis les au revoir. Ouais. Donc elle est venue avec son mari et elle s'est effondrée en larmes. Son mari s'est mis à pleurer. Alors du coup moi j'ai pleuré, je pouvais pas m'arrêter de pleurer. J'ai vraiment l'impression que mon cœur il s'est fendu en deux. Ma fille elle voulait pas décrocher des bras de, elle l'appelait papy du coup son mari. Mmh. Donc elle disait papy. Ah, j'avais l'impression de l'arracher à sa famille, mais je pense que c'était vraiment une deuxième famille pour elle.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Donc voilà, et là depuis 3 semaines, la famille entière nous appelle tous les jours et je dois envoyer des photos, des vidéos tous les jours, sinon je me fais disputer. Ça m'arrivait une fois d'oublier, elle m'envoyait un message: pourquoi on n'a pas eu de vidéo ni de photo, qu'est-ce qui se passe, faut pas que tu nous fasses ça. Oh pardon, je suis désolée, je vais le faire tout de suite.
Parce que eux ils vous ont complètement adopté dans leur famille, donc pour la suite vous allez revenir à une vie normale, à votre vie de famille en France, à vos projets futurs. Ça risque d'être peut-être dur pour eux aussi. Tu sais, vous savez comment amener les choses, ou tu penses arriver à continuer les nouvelles comme ça indéfiniment? Je pense à ça parce que je me dis que c'est peut-être pas facile à vivre au quotidien, de se dire « faut pas que j'oublie en Chine d'envoyer ma photo, la vidéo ».
Bah ouais, je me suis déjà posé la question. Je me suis dit qu'à mon avis, on verra en fonction, au fil du temps.
Au feeling.
Après, je dirais, de façon que j'ai repris le travail, après, avec le décalage horaire, il y aura peut-être un petit éloignement, je sais pas. Mais, on avisera. Ils m'ont dit qu'ils voudraient essayer de venir nous voir peut-être d'ici 1 ou 2 ans. Donc, on leur a dit que la porte était ouverte. Donc, il n'y avait pas de souci de ce côté-là, mais.
C'est des gens qui avaient déjà voyagé ou pas du tout?
Alors, je ne sais pas s'ils avaient voyagé. Par contre, en décembre, du coup, Aïe m'avait demandé 5 jours de repos pour partir en Corée. Donc, elle était partie en Corée pendant son année avec nous.
D'accord.
Mais je sais pas s'il avait voyagé auparavant. Je ne sais pas, je lui ai jamais demandé.
Ce serait fou de se dire mais dans le sens waouh, gigantesque, de les accueillir chez vous, de se dire qu'ils vont découvrir votre vie française. Ce serait énorme.
Oui, et puis c'est vrai de se dire qu'on tisse autant de liens alors que du coup on parle aucune langue commune. Okay.
Ouais. On ne se parle que par
gestes. Et pour le coup, on se comprenait très bien toutes les deux en gestes, en gestuelle, et puis par traducteur. Et puis après, il y avait le lien avec Jade. Et c'est vrai que parfois, on était assises, on la regardait et on rigolait toutes les deux parce qu'elle faisait le clown, quoi.
Donc une sacrée expérience quand même.
Ouais, ça c'est vrai que c'était chouette.
Pendant donc du coup tous ces mois, vous avez visité un petit peu, parce qu'avec un seul jour de congé par semaine, j'imagine que ça devait être compliqué de visiter, mais vous avez visité un peu de la Chine, d'autres endroits, d'autres villes.
Alors oui, on a quand même pas mal bougé. Alors donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'île d'Hainan est pas très grande, c'est aussi grand que la Belgique. Donc nous on vivait au nord, à la capitale qui s'appelle Haikou.
D'accord.
Donc, du coup, la capitale, Haikou, pendant le mois où il y avait donc ma famille puis ma belle-famille, moi j'ai vu en long, en large, en travers cette ville. Du coup, pendant les jours de congé, j'ai aussi essayé de faire montrer cette ville à mon chéri pour qu'il la voie. Et puis une fois qu'on a fait le tour de la ville, on a commencé parce qu'il y a le train, on se déplace très très facilement sur l'île, donc on a commencé à prendre le train et voilà, on s'arrêtait, on changeait d'arrêt à chaque fois, on descendait un arrêt plus loin. On a fait tout le tour de l'île comme ça. On est tombé sur des petites pépites. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Chinois n'aiment pas du tout le soleil. Du coup, Ils vont à la plage que le soir quand le soleil commence à se coucher. Sauf que nous, Européens, on va pas à la plage à ce moment-là. Nous, on y va quand il y a du soleil.
Non, c'est l'inverse. Mais oui.
Donc, on s'est retrouvés sur des plages paradisiaques avec pain, un chat, l'eau transparente. Alors, faut savoir quand même que juillet, août, il fait très chaud, mais à partir de février jusqu'à fin octobre, il fait vraiment très bon. Il va faire entre 25 et 35 degrés en fonction de la période.
D'accord.
Et donc du coup, on est vraiment tombé sur des pépites. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'endroit le plus touristique de l'île, c'est Sanya. Donc c'est le sud. D'ailleurs, les Chinois l'appellent la fin du monde, parce que pour eux, c'est la fin. Hein, c'est le point le plus au sud de la Chine. Donc ils appellent ça la fin du monde.
Ah oui.
Avec des très belles plages. Il y a beaucoup de mariages qui sont là-bas, avec des photos de mariage. Et donc c'est vrai que nous, on a vécu donc au nord. Mais les plages du sud sont beaucoup, beaucoup plus jolies, mais du coup, il y a beaucoup plus de monde. Donc, Haikou, c'est quasiment désert au niveau touristique. Sanya, c'est noir de monde. Mmh. Donc, en fait, on a beaucoup visité l'île. Donc, une fois par semaine, on bougeait, on changeait d'endroit. On s'est retrouvés sur des plages de surf. Alors, c'est complètement improbable, je trouve, que de voir des Chinois surfer, sachant qu'ils n'aiment pas du tout le soleil. C'était incroyable de voir ça. Donc, voilà, on s'est retrouvés sur des spots de surf. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des très belles plages, mais qui sont pas toujours très propres. On va être très honnête avec ça. Alors, les Chinois, ils font beaucoup d'efforts, vraiment, pour nettoyer. Mais il y a beaucoup de choses qui reviennent de la mer. Donc, en fait, en fonction de s'il a beaucoup plu, s'il y a beaucoup de vent, on peut se retrouver avec beaucoup de plastique qui arrive de la plage et qui se mettent sur le sable. Mais les Chinois, ils nettoient vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, ils font vraiment des efforts de ce côté-là. Donc, parfois, on a une plage très, très propre et le lendemain, on peut retourner à la même plage et elle est vraiment, vraiment très, très sale. Ça nous est déjà arrivé.
Donc, c'est dépendant d'eux. Au final, c'est les marées qui apportent tous les plastiques jetés dans l'eau. Donc, ils font ce qu'ils peuvent aussi, j'imagine, même si, comme on disait tout à l'heure, on a une image de la Chine très polluée, de gens qui font pas forcément attention, mais t'as l'air de dire le contraire, donc.
Bon, en tout cas, sur l'île, moi, je trouve qu'ils faisaient vraiment attention dans les rues. Ils nettoient tout le temps. Deux fois par jour, il y a l'eau qui passe carrément sur la route pour nettoyer la route. Enfin, voilà, ils font vraiment attention.
Oui.
Ouais. Ils sont vraiment très propres. Après, donc, on a eu quand même droit à 2 semaines de vacances dans l'année. Attention.
2 semaines dans l'année?
Oui, on a eu 2 semaines. Et donc, on en a profité pour faire un petit tour de Chine, parce qu'on s'est dit, quitte à être en Chine, autant visiter la Chine.
Donc,
on a visité Hong Kong 4 jours, Shanghai 4 jours, et Pékin 4 jours. Voilà. On a fait comme ça.
Et vous en gardez un bon souvenir?
Alors, c'était un super voyage, vraiment. Alors, Hong Kong, on est tombé amoureux de cette ville. Alors, Hong Kong, ce n'est pas la Chine. C'est quand même une ancienne colonie anglaise, donc il y a vraiment une culture très européenne, tout le monde parle anglais, on a l'impression d'être dans un mini New York. Donc, du coup, pour le coup, ça compte pas. Mais Hong Kong, vraiment, je conseille, c'est très, très sympa. Ensuite, on a fait Shanghai. C'est très mignon, Shanghai. Je trouve que... mis à part le quartier un petit peu d'affaires, finalement, il n'y a aucun bâtiment très haut. Tout est à taille d'homme. Ce sont des maisons qui font 2-3 étages. J'ai trouvé que c'était une ville avec beaucoup de charme. On mange très bien à Shanghai. La nourriture est très, très bonne. Après, petit bémol sur la pollution. Il y en avait, malheureusement. Alors, encore, je pense que ça allait les jours où on y allait. Mais voilà, on a quand même commencé à sentir un peu la pollution, on a commencé à avoir des maux de tête, on voyait bien qu'il y avait un nuage de pollution, on fait vraiment la différence entre il fait gris, il y a du brouillard et la pollution, je trouve que ça se voit. Mais en tout cas, c'est une ville avec beaucoup de charme. Vraiment, c'est une ville très plaisante, Shanghai.
D'accord.
Et puis, donc, on a fini par Pékin, ou Beijing, parce que ils appellent ça Beijing. Alors là, nous... Plus gros bémol, parce que du coup, c'est très, très, très pollué. Ça faisait à peine 15 minutes qu'on avait atterri, qu'on avait déjà la nausée et les migraines à cause de la pollution. Et vraiment, on a l'impression...
Vraiment,
on avait l'impression d'être derrière un pot d'échappement constamment au niveau de l'odeur. On a l'impression de respirer... Enfin, au niveau de l'odeur, on avait vraiment ça dans le nez toute la journée. Donc vraiment, gros bémol de ce côté-là, parce qu'après, niveau histoire, c'est hyper intéressant. Beijing, les rues sont très belles, les couleurs n'ont rien à voir, les maisons sont hyper mignonnes. Enfin, je veux dire, on va voir la cité interdite, c'est incroyable. Alors, la Grande Muraille de Chine, c'était quand même
magnifique.
Un truc, enfin, vraiment, je me suis réveillée le matin toute excitée comme une enfant. On va voir la Muraille de Chine, on va monter dessus. C'était une expérience incroyable. On a passé une super journée.
Ah oui, j'imagine.
C'est très, très beau à voir. C'est vraiment incroyable. Et puis vraiment, on a eu de la chance, c'est que c'était désertique. Donc, on y allait. Les trois villes qu'on a fait, il n'y avait pas grand monde parce que c'était pas une période de vacances. Donc, du coup, on n'avait pas ce côté vraiment noir de monde. Mais voilà, gros bémol sur la pollution, un petit peu à Shanghai et puis beaucoup à Pékin. Donc, on était vraiment contents après de retourner sur notre île où vraiment la qualité de l'air... la qualité de l'air, elle est top. Enfin, voilà... On n'a rien à dire, mais du coup, on a vu un petit peu la Chine.
Donc après, vous avez fait une vision d'ensemble de ce qu'est la Chine, les grandes villes de Chine.
Voilà, on a fait vraiment les trois grosses villes. Après, je pense que c'est aussi intéressant de rentrer dans les terres, d'aller voir plus la campagne. Mais en deux semaines, on n'avait pas le temps, on n'avait pas envie de courir. Bah oui. On n'aurait pas eu Jade, parce qu'elle avait 2 ans à cette époque. On n'aurait pas eu Jade, je pense qu'on se serait mis à un rythme un peu plus gros. Là, on avait quand même une petite fille, on a pris quand même 4 fois l'avion en 2 semaines. Donc du coup, on a dit, on va faire un peu plus mollo, quoi.
Oui, puis c'est bien aussi de profiter, de prendre le temps de découvrir des nouveaux endroits. Et en plus, avec la petite, ça devait être de lui faire voir toutes ces belles choses. C'est génial, à son âge.
Ah bah. Elle a adoré. On avait acheté un petit sac de randonnée. Elle était toute la journée dedans. Elle était vraiment émerveillée. Elle a vraiment beaucoup aimé le voyage, hein. Puis elle adore l'avion, donc du coup.
Ah oui, vraiment... ah, c'est cool.
Ouais.
Tu as peut-être un ou deux conseils des parents qui voudraient prendre l'avion avec des enfants aussi jeunes, parce que la première fois qu'elle l'a pris, du coup, elle était quand même, elle était pas bien âgée, parce que c'est un gros vol quand même de faire Paris. Paris, vous êtes allé où jusqu'où avant d'arriver sur votre île?
Parce qu'il n'y a pas de vol direct sur l'île, il faut passer forcément en Chine. Donc j'avais fait Paris Guangzhou, donc c'était 12 heures de vol.
Quand même.
Ouais. C'est très long. Elle avait 15 mois et j'ai angoissé beaucoup de le prendre. Ça s'est très très bien passé. Je suis partie avec Hainan Airlines parce que du coup l'île a sa propre compagnie. C'est une super compagnie. Vraiment, ils sont. Et puis, enfin, après, je reviens dessus. Mais les Chinois, ils sont vraiment très avenants avec les enfants. Et je suis. Bon, après, je pense que beaucoup de compagnies le font aussi. Hein. Mais voilà, je n'ai jamais fait la queue pour rentrer dans l'avion. Les hôtesses sont venues me voir tout le temps. Elles m'ont gardé un petit peu la petite quand j'avais envie d'aller aux toilettes. Enfin, voilà. Après, je pense qu'il y a beaucoup de compagnies qui le font. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié cette compagnie. Elle est vraiment top. Le service a été excellent. Et bon, après, au niveau conseil pour les parents, alors, pour avoir testé un vol de jour, sur 12 heures, elle a dormi 30 minutes, donc...
Oui, dur.
Ouais, c'était dur. Donc, 11h30 à chanter des cantines, lire des livres et jouer, c'est très, très long.
Ah oui.
Donc, moi, je conseille aux parents un vol de nuit. Quand ils sont tout petits, ça peut être pas mal, parce qu'on peut se dire qu'ils vont au moins dormir un minimum. Ça, d'ailleurs, pour le retour, on a pris un vol de nuit... on a eu 12 heures d'avion et notre fille, elle a dormi 7 heures. Donc, du coup,
c'est quand même mieux.
C'est quand même mieux.
Est-ce que tu m'avais pris un siège particulier, enfin, son siège attribué ou a été sur toi?
Alors, du coup, quand je suis venue, donc elle avait 15 mois, elle n'avait pas de siège particulier. Ils m'ont donné un espèce de lit à accrocher devant mon siège.
Ah oui, un bassinet, oui.
Voilà. Alors, elle était trop grande, donc elle pouvait pas s'allonger, mais elle pouvait au moins s'asseoir, donc ça pouvait un peu me reposer les bras. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont donné une place où il y avait personne à côté. Donc, en fait, j'avais quand même un siège à côté. Donc, ça, pour le coup, c'était
top.
Excellent. Ouais, là, pour le coup, ils ont vraiment... Quand ils m'ont vu arriver toute seule... En plus, j'avais 4 valises de 35 kilos. Enfin, vraiment, j'étais au bout de ma vie.
Oh là là, c'est terrible.
Avec la... Si t'es en porte-bébé, je me suis dit, en plus, je devais refaire les transferts de bagages à Guangzhou pour le deuxième vol. J'étais exténuée, j'étais au bout de ma vie. J'ai dit à mon chéri, plus jamais, jamais je fais ça.
Et de Guangzhou à Lille, il restait combien de temps encore après?
Après, j'ai eu 2 heures.
Ouais, encore deux heures. Hein.
Ouais.
Donc, t'as fait un voyage de 14-15 heures, sans compter les temps d'attente à l'aéroport, etc. Bien 24 heures, en fait, pour arriver... d'un point A à un point A au point B.
Ouais, tout à fait. C'est dommage qu'ils fassent pas encore de vol direct. Je pense que ça va venir, mais comme du coup il y a pas encore beaucoup d'Européens qui connaissent cette île, il y a pas encore beaucoup de vols directs. Ça viendra.
D'accord.
Je pense qu'elle va être amenée à se développer parce qu'il y a vraiment du potentiel sur cette île.
C'est ça, j'allais dire. C'est le potentiel. Il est grâce au film, au tourisme, au spectacle, ou il y a d'autres choses qui pourraient amener de nouvelles personnes sur ce coin-là, dans ce coin-là.
Bah, je dirais que quand même il y a beaucoup le tourisme, surtout dans le sud. Hein. Vraiment, je reviens sur le site de l'île.
Sur ces plages-là.
Ouais. Bon, les plages sont vraiment différentes, beaucoup plus jolies. Haïku, c'est plus la capitale, donc c'est le port, c'est là où il y a l'import-export. Surtout qu'on n'est pas très loin de la Chine continentale. Quand c'est bien dégagé, on voit le continent de Haïku. Donc du coup, on n'était vraiment pas très loin. Vraiment. Après, les locaux, ils vivent beaucoup de, c'est beaucoup des agriculteurs. Et puis après, bon, là, c'est quand même Haïku, c'est quand même une ville qui fait plus de 2 500 000 habitants, donc il y a beaucoup de commerce.
Ah, quand même.
Ah oui. Bon, après ils appellent ça une petite ville, hein, mais bon, nous c'est aussi grand que Paris finalement, donc pour moi c'est énorme. Je venais de ma ville de 1 200 habitants, je me retrouve dans une ville de 2 500 000. Ils m'ont dit mais t'es dans un village. Ah bon.
Mais après, enfin,
ah oui, le choc complet. Mais du coup il y a quand même beaucoup de choses à faire sur Haïku. Ce qui est très agréable, c'est que tout est ouvert tous les jours, ça ouvre très tard, on peut très bien manger à minuit, donc c'est assez plaisant. Il y a pas beaucoup d'expatriés, vraiment. J'en ai pas rencontré beaucoup, à part ceux qui travaillent dans le parc d'attractions, du coup, parce que il y avait beaucoup de danseurs brésiliens, parce que c'était un parc à thème sur le thème du cinéma. Parce que là-bas, le constructeur, c'est la plus grande compagnie de cinéma de Chine. Donc du coup, cette compagnie a créé un parc d'attractions sur le thème du cinéma. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette ville, il y a également des studios de cinéma chinois où voilà, ils ont reconstruit des villes de Pékin. Et du coup, comme le climat est quand même très agréable toute l'année, ils peuvent venir jouer toute l'année et faire des tournages de films sur place, parce que c'est vrai qu'à Pékin, l'hiver, bon, c'est compliqué, quoi.
Oui, il fait froid.
Il fait très froid. Oui, mm-hmm. Ouais, mm-hmm. Tout à fait.
D'accord. Et donc maintenant, 3 semaines après votre retour, vous avez dû prendre un peu de recul, vous savez, vous avez réussi à discuter de cette expatriation, de ce que ça vous a apporté. Vous voyez repartir peut-être plus tard?
Alors oui, on a déjà très envie de repartir. On adore la France, mais on aime vraiment, voyager. Ça nous apporte quelque chose. Je sais pas, c'est quelque chose qu'on a besoin d'être. Mm-hmm. Je pense qu'on a besoin d'être en challenge, en mouvement, de pas être dans notre routine, parce que pour le coup, là, on casse tout le temps la routine. Alors, je suis pas sûre de vouloir retourner vivre en Chine. Je pense que c'est quelque chose qu'on a fait, qu'on est très content d'avoir fait. Mais que
une
voilà.
Expérience.
C'est une expérience, mais on n'a pas envie d'y retourner. On a envie de faire un autre pays. On a fait déjà une liste de pays qui nous intéressent, ou de moins de villes.
C'est vrai.
On a fait, sachant qu'avec le métier de mon mari, il peut, voilà, on va chercher un petit peu dans son domaine à lui.
Donc il y a peut-être beaucoup d'ouverture quand même, j'imagine.
Voilà, c'est ça.
Dans le spectacle.
C'est ça. Il y a quand même
quel pays ou ville t'attirerait le plus, par exemple?
Alors c'est vrai que vraiment nous on a un très très gros coup de cœur pour les États-Unis. Donc voilà, s'il y a possibilité aux États-Unis. Après on aime beaucoup aussi Hong Kong, donc s'il y a une possibilité à Hong Kong, on irait. Singapour, ça nous intéresserait aussi. Le Japon, c'est je pense que c'est quelque chose qui là pour le
finalement,
coup ça serait un
toi
vrai challenge.
Qui... Ouais, j'allais dire que c'est toi qui n'étais pas du tout pour l'Asie, enfin, ou même pour ton mari, tous les deux, vous, tout départ, tu nous disais que c'était pas un endroit, un continent, l'Asie, la Chine qui vous attirait. Tu pourrais te revoir, repartir dans l'Est, à l'Est?
Ouais, ah ouais, complètement. Ouais, voilà, complètement. On trouve que vraiment c'est des gens qui sont tellement ouverts, accueillants. On aime vraiment cette ouverture d'esprit, ils sont très curieux. Et Non, et puis par exemple, moi là, je suis rentrée en France. Bon, j'ai pas encore repris le travail, je reprends que dans 2 semaines. Ça fait 3 semaines que je suis à la maison et en fait, je me rends compte que bah, j'ai rien à faire avec ma fille, alors qu'en Chine, enfin vraiment, on n'avait pas le temps d'aller dans tous les playgrounds, que ça soit externe ou interne. Et ici, bah bon, en plus il fait froid, donc on passe pas 15 ans dehors.
C'est ça, je dis, le climat doit pas jouer en plus.
Voilà, le climat joue pas. Mais c'est vrai que c'est très agréable, par contre, de pas avoir d'hiver. Hein. Pour le coup, une semaine de ski par an, c'est bien, mais pas 4 mois d'hiver. Donc c'est aussi très agréable d'avoir 25 degrés en plein mois de janvier. Enfin voilà, c'est non. Puis vraiment, cette ouverture d'esprit qu'ils ont et cette tolérance qu'ils ont pour les enfants. Je trouve ça vraiment incroyable et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je l'aurais peut-être apprécié différemment si j'avais pas été maman, peut-être parce que c'est des choses que j'aurais pas remarquées, je pense. Et là, en tant que maman, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé et que j'aimerais pouvoir
avoir de nouveau.
Recommencer. Ouais, tout à fait.
Bah, c'est ce qu'on peut vous souhaiter de mieux. On espère que ça réussira et que pourquoi pas repartir.
On espère. Bon, là, on va se poser un petit peu parce que du coup, mon chéri il a été repris à Disney, donc lui, il a repris le travail. Voilà, moi, je reprends le travail dans 2 semaines et puis il y a quand même ce projet d'enfant d'ici quelques mois, donc on va essayer de se poser au moins pour ce nouveau projet. Puis dès que on aura ce deuxième enfant, je pense qu'on se repenchera sur la question.
Bah, je vous souhaite vraiment tout le bonheur en famille possible. Que ce nouveau projet se concrétise rapidement. J'espère que tout fonctionnera parfaitement pour vous, en tout cas.
Ben merci, nous aussi on le souhaite, c'est gentil en tout cas.
Est-ce que pour terminer, si tu écoutes les podcasts, mais je suis sûre que tu le fais, dois savoir que nous demandons à nos invités un ou deux lieux qu'ils conseilleraient à nos auditeurs, notamment sur l'île où vous êtes expatriés pendant quelques mois, donc presque un an et demi. Quels sont les lieux que tu recommanderais, que vous recommanderiez à nos auditeurs?
Alors du coup, pour l'île, vraiment, je recommande aux gens de venir la voir parce que c'est vraiment une île très intéressante. Je commencerai par Haikou, du coup, qui est la capitale. Je conseille aux gens d'aller au Kilu Old Street. C'est le vieux Haikou. C'est hyper intéressant. Ce sont des rues qui sont minuscules. On est vraiment dans le vieux Haikou. Les gens y vivent. On a l'impression, il y a 100 ans auparavant, on a vraiment l'impression de faire un bond en arrière. C'est très, très intéressant. Donc venez 2-3 jours sur Haikou, allez sur le vieux Haikou, donc Kilo Street, allez visiter les studios de cinéma chinois, c'est aussi très intéressant à voir, c'est très très beau, les décors sont magnifiques. Et ensuite, ce que je conseillerais aux gens, c'est de prendre le train et de s'arrêter premièrement à la gare de Wancheng et d'aller sur la plage de Longlu, qui est la plus belle plage que j'ai vue. J'ai l'impression qu'on était aux Maldives. C'est une plage magnifique. Il y a juste un hôtel au fond. Et sinon, elle est déserte. Il n'y a que des noix de coco. L'eau, elle est bleue turquoise.
Wow.
Vous pourrez demander à des locaux d'aller cueillir pour vous des noix de coco sur les cocotiers, de boire des noix de coco fraîches. Voilà, vous pouvez passer une journée à vous détendre. Ah non, mais c'est vraiment, moi, je conseille aux gens de taper Hainan sur Google juste pour voir. C'est vraiment très, très joli. Voilà, passez une journée sur la plage de Longlu. Reprenez le train. Ensuite, il faut s'arrêter à Wanning, c'est la plage des surfeurs, qui a quand même des compétitions de surf hein, tous les ans là-bas. Donc pour les surfeurs qui veulent apprendre à surfer, parce que c'est pas des très grosses vagues, mais c'est très intéressant. Il y a un petit bar de plage qui est posé sur la plage, il y a des chevaux qui viennent sur la plage, des chevaux sauvages, c'est complètement improbable. Après, il y a des surfeurs, enfin voilà, c'est quand même un cadre, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est montagneux parce qu'on est sur une île, il y a plein de volcans à visiter aussi sur l'île. Donc vraiment, si vous voulez faire un petit peu du surf, en tout cas vous initier, venez sur la plage de Wanning. Ensuite, reprendre le train et d'aller à Sanya. Sanya, c'est donc la
superbe plage.
Voilà, ouais. Et c'est vraiment une ville. Alors là, l'eau, elle est bleue turquoise. Allez visiter ce qu'on appelle le village des Minoritili. Donc en fait, c'était les premiers locaux de l'île. Donc on peut quand même visiter les huttes en bois. On peut aussi monter dans la forêt qui s'appelle la Rainforest. Bon, c'est pas très original, mais on peut visiter la Rainforest. Ils ont aménagé un grand pont vert où on est complètement dans le vide et après faire une petite randonnée dans la forêt. La forêt, elle est juste magnifique. Il y a des plantes splendides. Ça nous prend une journée. Enfin, voilà. Et
on sent que tu as vraiment aimé vivre là.
Ouais, non, mais c'était vraiment...
Tu donnes envie.
C'était vraiment... Puis les gens sont vraiment gentils, le climat est très agréable. Alors vraiment, les gens, faut pas y aller juillet août parce que déjà c'est la saison des pluies, il fait très très chaud. Mais voilà, si vous voulez une destination pour avril, mai, juin, c'est la meilleure saison. Septembre, octobre, c'est aussi très très agréable. Et déjà, il y aura pas de touristes. Bon après, faut regarder, faut pas y aller pendant, je crois, la première semaine d'octobre parce que c'est une National Week, c'est une semaine de vacances pour les Chinois, donc il y a un peu plus de touristes. Mais sinon, c'est quand même une île qui est vraiment déserte niveau touristique. On est qu'avec des locaux, les gens sont très sympas, ils sont très contents de vous parler, même si on se comprend pas, ils sourient, ils rigolent tout le temps, ils sont contents de vous servir même s'il est minuit. Enfin, moi, je me suis quand même retrouvée une fois. On était allé sur une petite plage qui s'appelle Hue Bay aussi. C'est à côté de Sanya. C'est très sympa. C'est une plage qui est entourée de montagnes et qui est dans une baie. C'est incroyable. Et on s'est retrouvés donc le matin. Il n'y avait pas de petit déj dans l'auberge. Et donc on s'est dit, bah, on va aller essayer de voir dans le petit centre qui était à 10 mètres à pied. Donc on traverse. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Chine, les gens ne ferment pas leurs portes. Alors, je parle pas de point de vue verrou, je parle vraiment de la porte ouverte au premier degré. Les portes sont toutes ouvertes, donc on voit chez les gens, on voit la grande ouverte, et les gens vivent dehors, rentrent et sortent, même s'ils sont pas là, les portes sont ouvertes, c'est pas grave. Et ma fille, farouche comme elle est, elle court, elle rentre dans une maison, donc j'essaye de la rattraper sur le port de la porte, j'y arrive pas, donc je rentre pas parce que bon, donc ça se fait pas, et là, les personnes me disent, il n'y a pas de souci, elle peut rester jouer là. Ah bon? D'accord. Donc, elle est restée jouer dans la maison des gens. Ils nous ont offert un thé. Donc, on a gentiment accepté de boire le thé avec eux. Ensuite, on a essayé de leur donner de l'argent pour les remercier. Ils ont jamais rien voulu entendre. Donc, j'ai récupéré ma fille. On a remarché peut-être 20 mètres. Et là, on se trouve face à une petite dame qui fait elle-même sa cuisine. Et je tombe sur des petites viennoiseries que j'aime beaucoup. Bon, c'est une espèce de petite galette frite. C'est très très bon et il y avait des œufs durs aussi. Ma fille elle adore les œufs durs le matin et du coup je lui demande est-ce que je peux lui en acheter. Elle les vendait pas, hein, elle les cuisinait dans la rue.
Ah oui, c'était pour elle, d'accord.
Voilà, c'était pour elle. J'ai dit est-ce que je peux vous en acheter, j'adore votre pâtisserie. Je lui dis ça sur le traducteur. Elle me dit oh, et là elle me prend un sac, elle m'en met 5-6, elle met 5-6 œufs durs. Donc j'essaie de lui donner des yuan. Non, c'est pour votre fille, elle est tellement belle. On lui dit piaolin. Alors, et du coup, on s'est retrouvés là en 10 minutes, on a pris le thé, on avait un petit déj. Les gens, ils ont jamais voulu qu'on leur donne de l'argent. Enfin, voilà, c'est comme ça tout le temps en Chine. Les gens, ils sont très, très généreux, même s'ils ont rien, ils vous donneront tout ce qu'ils ont. Ils pourront même vous accueillir chez eux. Et c'était une matinée très agréable. Et puis après, on a fini sur la plage à demander, du coup, à un monsieur de nous cueillir des noix de coco sur le cocotier et puis à profiter de la plage, quoi. Donc, voilà, c'est ce que vous pourrez vivre si vous venez sur l'île d'Hainan. Et puis, il faut savoir que la vie n'est pas chère aussi.
Et ben, ça donne vraiment, vraiment envie, là. Là, je book mes billets pour la semaine prochaine.
Il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, si les gens, ils ont besoin de conseils, d'endroits, il n'y a pas de souci, ils peuvent me demander.
On peut te retrouver du coup d'ailleurs, tu as des sur Instagram par exemple, tu as un compte sur lequel les gens pourraient s'ils le souhaitent venir te parler, discuter, voyage à nous partager.
Oui. Tout à fait. Donc j'ai un compte Instagram où j'ai posté très régulièrement notre année. Donc ça s'appelle lodie.drl, donc lodie.drl. Donc voilà.
D'accord.
Et j'ai posté plein de photos. Voilà, il y en a beaucoup. J'ai pas mis de filtre exprès parce que je voulais vraiment montrer la beauté des paysages.
Et, super. Voilà,
je conseille vraiment aux gens de venir sur cette petite île qui va bientôt exploser, je pense. Et du coup, après, ça gâche un peu le charme quand il y a beaucoup trop de
touristes. Surtout après l'épisode que l'on vient d'enregistrer où tu as donné, en tout cas moi, tu m'as donné fortement envie d'aller la découvrir.
C'est génial. Je suis contente. J'ai fait mon job.
Merci beaucoup Elodie. Nous vous souhaitons toute l'équipe et tous les auditeurs, j'en suis sûre, te souhaitent à toi et à ta petite famille bon retour en France, de bien reprendre vos marques et puis que tous vos projets de 2020 se se fasse, réussisse.
Bah, merci beaucoup et merci beaucoup pour ce moment. C'était très agréable et je suis vraiment contente d'avoir pu échanger sur cette jolie île.
Merci à toi.
Et oui, c'est déjà fini, c'est tout pour aujourd'hui. Mais si vous souhaitez retrouver les bonnes adresses de notre invité, rendez-vous sur Mapster, cherchez notre compte French Expat, le podcast, tout attaché, et vous retrouverez ainsi toutes les bonnes adresses de tous nos invités, un peu partout dans le monde. Merci infiniment à tous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, laissez-nous plein d'étoiles et un avis sur Apple Podcast, c'est le meilleur moyen de nous aider.
D'ailleurs, je souhaite partager avec vous une des reviews que nous avons obtenues très récemment sur Apple Podcast. Donc un grand merci à Justine USA qui nous dit « Génial, j'adore ce podcast. Chaque épisode est une réelle découverte, un pays, une vie, une histoire, une famille, une culture. C'est super de pouvoir connaître et comprendre toutes ces expatriations aux quatre coins du monde. J'adore écouter chaque épisode chaque semaine. » Keep going à toute l'équipe qui met une énergie de fou à la réalisation de ce podcast. Bravo les filles. Eh bien, merci à toi Justine pour ton soutien, ta fidélité et merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous laisser un avis. Sachez que vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et LinkedIn @FrenchExpat le podcast. Pour retrouver tous les liens vers tous les épisodes, les plateformes, les réseaux sociaux, c'est encore plus simple. Direction notre site internet frenchexpatpodcast.com. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et à bientôt.
Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt!